Une série de messages qui commence dès ce matin et qui va continuer dans les dimanches à venir. Série de messages qui s'intitule tout simplement, quand on passe à Néhémie, il y a cette phrase qui est là, ce slogan, levons-nous et bâtissons. Amen. Si c'est quelque chose qui peut vous rester ce matin, c'est bien cette phrase, levons-nous et bâtissons, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, ce qui était dans le cœur de Néhémie un jour et qui a commencé à prendre de la place dans toutes ses pensées et puis un jour qui a permis de se concrétiser. Dieu a conduit les temps et les circonstances. On va le voir encore au travers de ce passage. Et c'est important de réaliser que dans nos vies, des fois, on a besoin de prendre position, de se lever et de commencer à bâtir. Il y a tout un contexte historique de ce livre de Néhémie. Je ne sais pas si vous le connaissez bien. En tout cas, c'est un livre qu'il faut mettre en parallèle avec Esdras et Esther. Vous connaissez bien Esther à Moissac, avec la comédie musicale de Crescendo. Et donc là, vous avez l'histoire d'Esther qui se situe entre la première partie du livre d'Esdras et la deuxième partie du livre d'Esdras. Si vous voulez, c'est très simple. Jérémie le prophète, qu'on trouve dans la parole de Dieu, à un moment donné, il a prophétisé qu'il y aurait 70 ans entre la destruction de Jérusalem et puis le retour d'exil. Parce que avec la destruction de Jérusalem, tous ceux qui habitaient là ont été déportés à Babylone. Et Jérémie avait prophétisé avant que ça arrive, bien sûr, qu'il y aurait 70 ans exactement entre la destruction de Jérusalem et le retour des Juifs à Jérusalem. Alors, c'est ce qui s'est passé. Là, je vous fais un petit peu un historique biblique. Quand on lit Agée, quand on lit Zacharie, ce sont des hommes qui ont été utilisés par Dieu pour pouvoir à nouveau redonner du zèle à ces personnes qui sont parties pour ce premier voyage, Zorobabel et Josué. C'est sûr, c'est des noms un petit peu bizarres aujourd'hui, mais c'est des noms qu'on trouve dans la parole de Dieu. Ils se sont levés, ils ont dit « on va retourner et on va reconstruire le temple ». Et vraiment, là, il y a déjà une image dans cette réalité historique de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a permis, dans nos vies, que nos vies puissent redevenir le temple du Saint-Esprit. Parce que le péché est quelque chose qui a empêché, justement, la présence de Dieu d'être communiquée à l'être humain. Et par le sacrifice de Jésus, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Il y en a qui ont expérimenté ça déjà ce matin. Moi, je peux dire que je l'ai fait, je sais qu'il y en a plusieurs, mais combien c'est une grâce quand notre vie est à nouveau le temple du Saint-Esprit, ce qui était le cas dans le Jardin d'Éden et qui a été brisé par le péché d'Adam et de Ève. Mais par notre péché aussi, on a notre part aussi, hein, on est d'accord. Donc ça, c'est le premier retour, ça, c'est Zorobabel, Josué qui commence à reconstruire, il s'arrête un temps parce qu'il y a des problèmes, et puis finalement, Agée et Zacharie les remotivent, il y a un réveil, une prise de conscience, ils finissent de construire le temple. Ensuite, il y a Esdras qui arrive dans presque 80 ans après le premier retour d'exil, il y a un deuxième retour d'exil. Et là, Esdras, il fait partie du voyage. Donc vous voyez que les choses se sont pas faites en un jour. Et Esdras, c'est quelqu'un qui a ramené vraiment le peuple d'Israël à la parole de Dieu. Il y avait un amour, il était versé dans les Écritures, il avait une connaissance et puis une façon d'expliquer les choses qui faisait que les gens qui l'entendaient, ils étaient touchés. Et puis, 12 ou 13 ans après, c'est Néhémie qui arrive et qui notre histoire, l'histoire de Néhémie chapitre 1er, ça commence à partir de ce moment-là où Néhémie prend conscience qu'il y a un besoin à Jérusalem. Donc maintenant, on va simplement nous attaquer à lire ce premier chapitre. Aujourd'hui, on va se contenter du premier chapitre, mais dans les dimanches à venir, on aura donc l'occasion de voir toutes les leçons que Néhémie nous apprend. Première chose que nous pouvons souligner dans ce chapitre, c'est que Néhémie, c'est un homme de prière. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse apprendre avec Néhémie, qu'on ait le cœur ouvert pour apprendre la prière efficace. Néhémie, déjà, avant d'attaquer, de rentrer dans le texte, c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle le type, le modèle de Jésus-Christ. Néhémie, c'était celui qui était dans la plus grande salle du trône de l'époque et qui est passé de cet endroit-là à l'endroit le plus désolé, l'endroit où il y avait des ruines, Jérusalem, qui était totalement détruit. Et quand il est arrivé dans ces ruines, pendant 3 jours, il s'est reposé et après 3 jours, il s'est levé pour reconstruire la ville. Ça, c'est, je vous résume l'histoire rapidement. Mais, frères et sœurs, il y a quelqu'un qui est parmi nous qui est plus grand que Néhémie. Ne regardez pas autour de vous, vous le verrez pas, parce qu'il est là spirituellement parlant. C'est Jésus-Christ qui est descendu de son palais royal, le plus beau palais, la gloire de Dieu, qui est descendu dans les ruines de la misère de la terre et qui pendant 3 jours à Jérusalem, il est resté enfermé au tombeau, puis il s'est levé par la résurrection et il a commencé à bâtir. Il a dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Voilà celui que nous voulons admirer et celui duquel nous voulons tirer toutes les leçons au travers de l'exemple de Néhémie. Alors, on va lire ce texte. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Hanani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés dans la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivris à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples, mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Amen. Le premier chapitre est consacré à nous rapporter cette simple prière qui est montée dans le cœur de Néhémie face à la situation. Et il y a toutes sortes de leçons par rapport à la prière que nous pouvons en tirer de ce chapitre. Dans le deuxième chapitre, on voit qu'il y a l'exaucement, parce que la prière qui est vraiment efficace, c'est la prière qui est exaucée. On est d'accord. C'est à ça que sert la prière en tout premier lieu, mais il y a tout un procédé, il y a toutes certaines étapes qui sont là pour que notre prière justement puisse être efficace. Ça passe par un temps de constat, ça passe par un moment où on est ému de compassion, ça passe par un moment où on confesse notre péché, ça passe par un moment où on comprend le royaume de Dieu par rapport aux choses de la terre. On a vraiment la vision de ce qui se passe réellement. Ça passe par quelque chose qui est vraiment construit, appuyé, fondé sur la parole de Dieu. Et ça passe aussi par une continuité, une constance dans la prière. Parce que, on le verra tout à l'heure, mais la prière que Néhémie rapporte là, il n'a pas fait juste un jour. Des fois, on lit vite la Bible et on a l'impression qu'il prie, hop, en claquant des doigts, ça se fait le lendemain. Non, il faut bien étudier la parole de Dieu et voir que c'est pas comme ça que ça s'est passé. La première chose qui s'est passée en tout cas, c'est qu'il a commencé à avoir un constat. Le constat, c'est un de ses frères, on ne sait pas si c'est vraiment son frère de chair et de sang ou quelqu'un proche de lui, un cousin, en tout cas, qui commence à lui donner des nouvelles. Et il y a cette nouvelle qui est là. Il y a le temple à Jérusalem, il était déjà rebâti, il est parfaitement construit, mais il n'y a aucune muraille. Toutes les murailles sont en ruine. Il y a les portes qui sont consumées par le feu. Il y a les traces que l'ennemi a ravagées un jour. Même s'il y a le temple de Jérusalem, même s'il y a à nouveau, il faisait les sacrifices qui devaient attirer le faveur de Dieu et permettre aussi de voir la grâce du Seigneur, il y a autour les ruines qui sont là. Et vraiment, l'image, elle est déjà là par rapport à ceux à qui s'adresse ce message. Déjà à ceux dont le cœur, le corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est la première étape. Si vous voulez avancer avec Dieu, il faut que vous disiez, Seigneur, je veux que ma vie puisse t'accueillir. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme, nous dit la parole de Dieu. Dieu n'habite pas 6 places blanches à Moissac. Vous savez que Dieu n'habite pas à cette adresse. Dieu n'habite pas non plus à l'abbatiale. Dieu n'habite pas à Lourdes. Dieu n'habite pas à Jérusalem. Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il habite dans le cœur des hommes qui croient en lui, qui ont accepté de lui livrer leur vie. Et Néhémie était un de ces hommes. Nous avons fait cette expérience. Mais parfois, on peut avoir fait cette expérience, avoir décidé de mettre notre vie comme le temple du Saint-Esprit par la repentance et la conversion. Mais après, on s'arrête et il y a une espèce de décalage, de déconnexion avec la réalité. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit, mais autour de nous, on est comme mis à nu devant les ennemis. À l'époque, il n'y avait pas de muraille, et quand une ville n'avait pas de muraille, il y avait souvent des attaques des ennemis qui étaient là aux alentours. Et croyez-moi, au temps où Néhémie parle, il y avait des ennemis du royaume d'Israël. Il y avait des gens qui étaient jaloux, parce que c'était les rois de l'époque. Quand Zorobabel et Josué se sont levés, c'est parce qu'ils avaient une lettre officielle. C'est comme si aujourd'hui Emmanuel Macron disait « Je veux qu'à Moissac, qu'on construise une église ». Imaginez ce que ça ferait, combien ça attirerait les jalousies des uns et des autres. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu des jalousies, il y a eu des attaques, il y a eu des découragements. Par la grâce de Dieu, le temple a été bâti, mais il y avait toujours ce danger qui était là dans l'atmosphère, les murailles qui n'étaient pas reconstruites. Frères et sœurs, je vous invite non seulement à avoir la foi, mais à que votre foi puisse être fortifiée. C'est pour ça qu'il faut se lever et bâtir. C'est pour cela qu'il faut, jour après jour, prendre, comme c'est sur cette image, prendre dans une main le marteau et dans l'autre main l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, afin que nous puissions bâtir notre foi, être solide, et que quand l'épreuve provient, quand l'épreuve arrive, on ne soit pas tout tremblant, tout découragé, tout apeuré, mais on soit ferme parce que on sait qu'on a un Dieu qui nous protège. Le temple a été rebâti, mais pas les murailles. Et je crois que déjà par la prière, c'est un moyen de rebâtir. Avant de nous lever pour bâtir notre couple, pour bâtir notre famille, pour bâtir notre église, pour bâtir l'endroit où Dieu nous a placés, notre vie professionnelle, avant de nous lever pour bâtir, il faut s'agenouiller pour prier. Ça, c'est la première leçon. La prière en premier. Et avec Néhémie, on peut apprendre cette prière efficace. Avec son frère Hanani, il fait ce constat. C'est bien des fois de faire des constats dans nos vies, de s'arrêter et de regarder un peu derrière. Comment est-ce que ça va? C'est bien de se poser des questions. C'est bien de laisser Dieu nous poser ces questions surtout. Et une prière efficace, c'est une prière qui constate, qui regarde la réalité sans tricher. Des fois, on est un petit peu rêveur ou on sort un peu des phrases toutes faites. Quand on voit quelqu'un qui est dans l'épreuve, on lui dit que Dieu te bénisse, mais on dit ça un peu pour éviter de rentrer dans la conversation et d'approfondir. Ça vous est pas déjà arrivé, ça? De voir des gens qui vous disent cette parole, mais pour vous se débarrasser de vous, parce qu'ils n'ont pas envie d'écouter vos jérémiades, même si il y a la souffrance qui est là. Mais quand on est quelqu'un qui veut avoir une prière efficace, alors on accepte d'avoir les yeux ouverts. Et on s'intéresse. Dans le cœur de Néhémie, il y avait cet intérêt pour Jérusalem. Pourtant, il était dans une situation sympathique. C'était l'échanson du roi. C'était celui qui, à l'Élysée aujourd'hui, il sert le vin au président. Vous voyez l'image. Donc, il a une position, il a une certaine tenue. En plus, c'était à l'époque, il y avait vraiment des risques d'empoisonnement parce qu'il y avait toutes sortes de complots qui étaient là. Donc, les hommes qui étaient chansons, c'était des personnes dignes de confiance, les plus dignes de confiance, parce que c'est eux qui versaient le vin. Ils pouvaient facilement mettre du poison. Ils pouvaient se faire payer pour tuer le roi. Ils rentraient dans les appartements privés du roi, parce que souvent dans ces endroits-là, ils prenaient du vin. Bref, c'était quelqu'un de confiance, Néhémie. Il avait une place dans la société. Et pourtant, son cœur est préoccupé par une chose. Bien sûr que son travail, il le faisait comme il faut. Mais son cœur était préoccupé par l'état de Jérusalem. Et la question que je voudrais nous poser, où c'est qu'il est notre cœur? Par quoi notre cœur est-il préoccupé le plus? On a le droit, bien sûr, de se préoccuper de nos études, de notre travail, de notre famille. C'est normal, ce sont les choses de la vie. Mais qu'est-ce qui nous préoccupe en tout premier lieu? Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Des fois, on dit, ouais, moi, j'aime Dieu plus que tout. Et après, on regarde le temps qu'on passe à faire ceci ou cela. On s'aperçoit que c'est pas Dieu qui prend la première place dans notre vie. Mais c'est tel ou tel loisir, telle ou telle occupation de la vie qui nous prend tout notre temps. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi Néhémie. Ce n'est pas pour rien. Il n'a pas pioché en disant, tiens, plouf plouf, dans tous les Juifs qu'il y avait à Jérusalem. Il a vu un homme digne de confiance et un homme qui était préoccupé, qui cherchait en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et quand il a entendu parler de ce qui se passait, son cœur a commencé à être touché en profondeur. Et combien c'est important que nous puissions nous occuper non pas des choses futiles de ce monde qui sont passagères, mais que nous puissions nous préoccuper des choses qui durent. Parce qu'il y a des choses dans ce monde qui sont passagères. Vous regardez les informations et vous verrez qu'il y a des gens en un jour, ils ont tout perdu avec une tempête, Harvey, José ou Irma ou le nom que vous voulez. Vous voyez des gens qui, en un jour, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Parce que les choses de cette terre, elles sont comme ça. Et c'est pas parce que ça nous est pas arrivé encore ici que ça nous arrivera jamais. Il faut être prêt. Il faut surtout que notre trésor, il soit pas dans les choses d'ici-bas, mais qu'il soit dans les choses d'en haut qui, celles-là, ne bougeront jamais. Que là, aucune tempête, aucun tremblement de terre ne pourra nous enlever tout ce que Dieu nous donne dans son royaume. Mais son cœur, il est touché. Quand il entend ces choses, il se met à s'asseoir, il pleure, et pendant plusieurs jours, il est dans la désolation, il jeûne et il prie devant son Dieu. Son cœur est touché. Une prière qui est efficace, c'est pas une prière qu'il récite de manière formaliste et un petit peu carré les choses. Ah, je me suis trompé, j'ai oublié une virgule. C'est pas ça la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est une prière qui est remplie de compassion. La situation de Jérusalem, il la voit et son cœur est rempli de compassion. Il n'y est pas allé encore, mais il s'imagine comment c'est la désolation et cette désolation que les habitants vivent là-bas, il l'associe à, il la fait sienne. Et quand on veut prier pour quelqu'un avec efficacité, frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il faut que notre cœur soit rempli de compassion. On peut pas prier en tapant sur l'épaule, en disant, allez, ça va aller, que Dieu te bénisse. Ça marche pas, ça. Il faut prier, mais avec vraiment le cœur qui a attaché à notre frère. Souffrez avec ceux qui souffrent, nous dit la parole de Dieu. Pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a des moments où des frères ou nos sœurs ou quelqu'un de notre famille est en train de pleurer. Et là, on va pas lui dire, allez, que Dieu te bénisse, il faut que tu souris. Mais on lui dit, je vais prier avec toi. Je vais m'associer à ta douleur. Et c'est exactement ce que Jésus, il a fait, déjà dans le jardin de Gethsémané, mais il s'est associé à notre douleur de manière parfaite sur la croix. Cette compassion. Et ce texte, cette phrase nous montre déjà une des plus belles raisons pour lesquelles on peut jeûner. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses et il y a toutes sortes de clichés par rapport au jeûne et prière. On va attaquer cette semaine de jeûne et prière, mais des fois, les gens ont une mauvaise vision du jeûne et prière. Là, on voit dans quelle situation Néhémie commence à jeûner. Il le fait parce qu'il est rempli de compassion, tellement touché dans ses sentiments qu'il n'a même pas le goût à la nourriture. Aujourd'hui, certains jeûnent parce qu'ils pensent qu'ils vont mériter que Dieu les exauce s'ils jeûnent. Et alors, on entend certains qui disent, moi j'ai jeûné 7 jours, moi j'ai jeûné 21 jours, moi j'ai fait un jeûne de Moïse, j'ai jeûné 40 jours. Et alors, Jésus, quand il enseigne le jeûne, il dit, mais vous glorifiez pas du jeûne. Il faut pas le montrer aux gens. Quand tu jeûnes, ne montre pas que tu jeûnes. Et tous ceux qui disent, j'ai fait ceci, j'ai fait tant de jours de jeûne, tant de jours de ceci, de cela, ils passent à côté déjà de l'état d'esprit du jeûne. Parce que c'est quelque chose qui est personnel. C'est quelque chose qui doit être le reflet de ce que nous faisons. Et c'est pas le fait de ne pas manger qui est important dans le jeûne. Souvent les gens disent, ah, si je mange, ma prière va pas être entendue du ciel. C'est le fait de consacrer ce temps à manger, de le consacrer plutôt à chercher Dieu. C'est ça qui est important, le plus important. Et après, que l'on mange après ou avant, peu importe, c'est surtout quand on dit, Seigneur, je te fais passer en premier. Je prends le temps qu'il faut pour te rechercher. Mais bien sûr, aujourd'hui, préfère le dire, parce que des fois, avec tout ce qu'on entend, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est quelque chose qui n'est pas imposé, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment avec sérieux, surtout si on a certaines maladies, il faut faire attention à ne pas jeûner, parce que ça peut nous mettre en danger, à ne pas se priver de nourriture déjà, parce que ça peut nous mettre en danger. Et il y a toutes sortes de façons de jeûner. Il y a le jeûne, ce qu'on peut dire, le jeûne de la télévision, le jeûne du sommeil, le jeûne de ceci ou de cela, le jeûne de cette activité qui me prend tout mon temps. C'est peut-être ça que Dieu nous appelle. Ne mettons pas tout de suite le fait de ne pas manger en premier dans le jeûne et prière. Néhémie, lui, c'est la compassion, c'est le malheur qui touchait son peuple, qui l'a poussé à se retrouver comme ça. Quand vous regardez Jésus, Moïse ou Élie, c'est pas eux qui ont décidé « Allez, je vais faire un jeûne de 40 jours ». C'est Jésus poussé par l'Esprit. Moïse et Élie, c'est parce qu'ils se retrouvaient dans la situation où ils n'avaient pas trop le choix. Mais c'est pas eux qui ont décidé. Et nous devons nous laisser conduire. Et nous devons nous laisser toucher par la compassion que nous pouvons expérimenter quand nous voyons une situation difficile. Est-ce qu'il y a des situations difficiles? Est-ce qu'il y en a dans vos vies? Ça peut arriver. Est-ce qu'il y en a autour de nous? C'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais comment est-ce que nous réagissons? On dit, ah ben de toute façon, moi je suis sauvé, alors les autres, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, moi je sais où je vais. Mais non, mais je sais où je vais, d'accord. Mais je veux être une bénédiction pour celui qui est à côté de moi et qui lui est perdu, qui est dans la désolation. Et je veux être quelqu'un qui va se lever et qui va commencer à prier le Seigneur. Une prière efficace est aussi une prière qui voit clair. Une prière qui est clairvoyante sur la situation, qui considère les réalités célestes avant celles qui sont terrestres. Et Néhémie commence sa prière en disant « Éternel, Dieu des cieux ». C'est une expression qui n'est pas beaucoup employée dans la parole de Dieu. C'est une expression qui est là, qui nous montre que cet homme, il a compris que Dieu n'était pas seulement le Dieu d'Israël, qui n'était pas seulement le Dieu qui avait régné sur Israël, qui avait donné ses lois à ce peuple, mais c'est le Dieu de tout l'univers, Dieu des cieux. Et il a compris, Néhémie, avec le recul, que tout ce qui était passé dans l'histoire de son peuple, c'est Dieu avait permis. Daniel, il a employé la même expression et il a dit « Seigneur, c'est toi qui changes les temps et les circonstances ». Est-ce que vous savez que Dieu est le maître des temps et des circonstances? Dieu, il n'est pas inquiet quand il y a un président qui passe alors que c'est pas celui qu'on voulait ou c'est celui qu'on voulait mais il fait pas ce qu'il avait promis. Dieu, il n'est pas inquiet par rapport à tout ça. La Bible nous dit, Daniel, il le dit après avoir dit « Tu es le Dieu des cieux ». Il dit, Seigneur, c'est toi qui renverse les rois, qui place le roi que tu veux en hauteur et qui abaisse l'autre. Seigneur, il fait ce qu'il veut. C'est lui le maître de toutes choses. Et Néhémie, quand il commence à prier, il commence pas tout de suite à plonger dans le sujet. Seigneur, j'ai besoin de ça. Des fois, on est tellement pris par nos besoins qu'on va tout de suite à l'essentiel. Et Néhémie, il commence dans l'ordre. Il glorifie Dieu. Tu es le Dieu des cieux. Toutes choses sont dans tes mains. Seigneur, pendant un certain temps, quand le royaume d'Israël était florissant, on croyait que tu étais que pour nous, mais on voit que même dans les désolations qui sont arrivées à Israël, tu as été celui qui a permis qu'un Daniel commence à prendre certaines positions dans le royaume de Babylone. Tu as permis que Néhémie devienne quelqu'un qui grandisse aussi, qui ait cette position, que Esther se trouve à une place particulière à un moment donné pour que les Juifs puissent être sauvés à l'époque où ça les concernait. À chaque fois, Dieu a permis, même si c'était pas dans le royaume d'Israël, que les situations changent parce que lui l'avait décidé. Est-ce que nous avons cette clairvoyance? Est-ce que nous avons ce regard ouvert sur les réalités que Dieu, il est le maître de toutes choses? Et peu importe ce qui peut se passer sur terre, nous avons un Dieu qui est là, qui règne sur son trône. Et prions, quand nous voulons être efficaces dans notre prière, disons-lui, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je vois, que je vois combien tu es celui qui règne. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. La prière de Néhémie, elle est fondée, enracinée sur la parole de Dieu. Vous voulez que votre prière soit efficace? Alors inspirez-vous de la parole de Dieu. À un moment donné, on a l'impression carrément que c'est un copier-coller de Deutéronome, la prière de Néhémie. Mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il répète bêtement ce qu'il a appris par cœur? Ou est-ce qu'il rappelle au Seigneur les promesses que Dieu il a dit? C'est ça qu'il fait. Et parce qu'il rappelle les promesses, parce qu'il engage Dieu en le disant, c'est toi qui as dit cette parole, Seigneur. Alors, tu t'es engagé maintenant, oh, fais ce que tu as dit. Et le Seigneur entend favorablement cette prière parce qu'elle est profondément ancrée dans la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est tellement bien de connaître la Bible, de la lire, mais pas de la lire bêtement, de la lire en cherchant ce que le Seigneur nous donne comme promesse. Il y a des, c'est Pierre qui dit, les plus grandes et les plus merveilleuses promesses dans la parole de Dieu, voilà ce qu'il y a. Quand on voit que Dieu promet que toi et ta famille, tu seras sauvé, je ne sais pas si ça vous intéresse, des versets comme ça, mais moi ça m'intéresse. Seigneur, tu as dit ça, je veux que tous ceux de ma famille puissent être sauvés. Quand on voit que le Seigneur nous promet toutes sortes de choses précises, combien c'est bon de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et regardez comment il le fait au verset 8, il dit « Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse. » Souviens-toi, Seigneur. Est-ce que Dieu a oublié sa parole? Non, c'est une façon de parler. Mais c'est lui dire, Seigneur, tu vois, cette parole, elle est écrite. Et nous sommes vraiment, ça correspond à la situation que nous vivons. Alors, il faut pas être de ceux qui, par superstition, ils ouvrent la Bible au hasard. Hop, ah, voilà ce que Dieu me dit. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Ah, le Seigneur est au milieu de moi. Sauf que même si je vis dans le péché, voilà, j'ai lu cette parole. Je crois que Dieu est au milieu de moi. Non, ça, c'est la superstition. Et si on lit la Bible avec superstition, eh bien, on sera pas béni. La Bible doit se lire avec simplicité, avec honnêteté et avec intelligence. Pas comme ça au hasard, mais de manière intelligente, on cherche. On a une lecture suivie peut-être, ça dépend des uns et des autres. Mais en tout cas, s'il y a un thème qui nous pose question, on recherche dans la parole de Dieu. Vendredi, on voyait comment trouver une réponse dans la Bible. Et c'est vraiment, c'est un livre qui est merveilleux parce que malgré les milliers d'années desquels il a été écrit, encore aujourd'hui, il nous parle de manière si vivante, si efficace, si concrète. Et il faut dire, Seigneur, je veux que ma prière soit fondée sur ta parole. Dans ce texte, nous voyons que Néhémie rappelle l'alliance d'un côté, la miséricorde de l'autre. Ça nous parle, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, la justice, les lois de Dieu, les lois du royaume, et puis de l'autre côté, l'amour. L'un ne va pas sans l'autre. Et on peut seulement penser à l'amour de Dieu et dire, Seigneur, de toute façon, tu m'aimes, donc je peux faire n'importe quoi dans ma vie, et se tromper totalement parce que Dieu a fait envers nous une alliance. Quel a été le prix de l'alliance de Dieu? Le sacrifice. À l'époque de Moïse, c'était déjà un sacrifice qui avait été fait, mais un sacrifice d'un animal. Et le sang qui avait été répandu, alors ça devait pas être sympa à vivre, mais à l'époque ils avaient l'habitude. Mais aujourd'hui, c'est spirituellement parlant que Jésus a donné sa vie. Ça, il l'a fait en vrai, il a donné son corps. Mais spirituellement parlant, son sang est répandu sur tous ceux qui ont la foi. Et il y a une alliance qui est là. Et nous rentrons, nous acceptons de rentrer dans l'alliance. C'est pas Dieu qui nous oblige. Nous acceptons volontairement de rentrer dans l'alliance. Mais si on accepte de rentrer dans l'alliance, on accepte les règles de l'alliance. On est d'accord? Celui qui se marie, celui qui passe l'alliance à son épouse et l'épouse qui reçoit l'alliance, ils acceptent de rentrer dans les règles de l'alliance. Si je mets l'alliance, mais qu'après dans ma vie je fais n'importe quoi, il y a un problème. Et le problème, il vient de qui? Il vient de moi. Parce que j'ai pas respecté les règles de l'alliance. Et Néhémie, il n'est pas là en train de dire, voilà, Seigneur, c'est injuste ce qui nous est arrivé, on a eu des catastrophes, les ennemis se sont déchaînés envers nous. Néhémie, il a une bonne vision. Parce qu'il est ancré dans la parole de Dieu aussi, il comprend les choses. Et il sait que ce qui s'est passé en Israël, ça découle d'une seule chose, ça découle du vrai ennemi. C'est pas les Assyriens, c'est pas les Babyloniens, c'est pas les Mèdes et les Perses. C'est qui le vrai ennemi? C'est leur péché. Leur péché les a envahis. Voilà pourquoi il faut se lever et dire, Seigneur, je veux me lever et bâtir dans ma vie. Pour être à l'abri du péché, pour être près de toi, pour être consacré à toi, afin que j'ai la force de tenir bon par rapport au péché. Et le résultat, c'est que Néhémie a fait monter cette prière et il a vu la gloire de Dieu se manifester, la faveur de Dieu, c'est ce qu'on verra une prochaine fois, la faveur de Dieu se manifester dans sa vie. Mais appuyons nos prières, et je vous incite vraiment à le faire, appuyez vos prières sur la parole de Dieu, afin que vous voyez combien ce sont des choses qui engagent Dieu. Quand il a dit une telle parole, que ça correspond au temps dans lequel on vit, et attention, il faut avoir l'intelligence des temps. Comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas prendre au hasard, en me disant que cette parole, elle est pour moi, alors que ça n'a rien à voir avec le contexte d'aujourd'hui. Mais Néhémie, quand il sort cette parole, c'était exactement ce qui se passait. Dieu l'avait dit, quand vous pécherez, Alors, il y aura des nations qui viendront, qui vous déporteront. Dieu l'avait annoncé à l'avance. Et les gens, le jour où ils ont entendu cette parole, la loi qui a été donnée, ils ont dit, nous voulons obéir, nous voulons marcher avec le Seigneur, nous voulons le servir. Donc, ils se sont tous engagés. Sauf que quand ils ont commencé à dériver, ben c'est les malédictions de l'Alliance se sont accomplies aussi. Et ça ne sert à rien de demander à Dieu de nous délivrer de nos ennemis, de nos difficultés quand nous sommes dans les conséquences de notre péché. Ça ne sert à rien de le faire si on ne reconnaît pas qu'on a enfreint sa loi. Il faut commencer par le commencement. Et Néhémie, il le fait d'ailleurs. Il le fait de manière personnelle, mais il le fait surtout de manière collective. Il a cette prière qui reconnaît, qui confesse son péché. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, la maison de mon père et moi, nous avons péché. Néhémie, c'était un homme droit. Je suis sûr que s'il y avait eu un tribunal à l'époque, ils n'auraient pas trouvé quoi lui dire parce que tellement il avait une vie droite. Et pourtant, devant Dieu, il dit, Seigneur, nous avons péché. Des fois, nous sommes nous-mêmes coupables. Et alors, c'est tellement important de confesser notre péché à nous. Mais des fois, nous sommes dans une communion de personnes où ce sont certaines personnes qui sont coupables. Et là, nous avons l'autorité de la part de Dieu de demander pardon. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, qu'on approuve le péché des uns et des autres, mais on cherche la faveur de Dieu et on veut que les choses partent sur de bonnes bases. La meilleure base sur laquelle on peut partir après la parole de Dieu elle-même, c'est de confesser son péché. Après avoir regardé la magnificence d'un Dieu qui est tout-puissant, qui règne au-dessus de tout, il faut regarder la petitesse de notre cœur. Le péché qui règne parfois dans nos vies, les failles que nous avons, et dire « Seigneur, pardonne-nous ». Et pas regarder le frère en disant « Lui, il pêche plus que moi, alors je suis meilleur ». C'est pas comme ça que ça marche. « Seigneur, pardonne-nous, j'ai fait des torts. Lui aussi, il a fait des torts, mais Seigneur, peu importe, pardonne-nous. On veut aller de l'avant, on veut être une église qui bâtit pour ton royaume, on veut être une église qui avance, qui permet que d'autres personnes te connaissent dans cette région, dans ce département du Tarn-et-Garonne, dans cette ville de Moissac et toutes les villes où le Seigneur nous a placés. Il y a la confession qui est là. Et après, ce que j'aime avec Néhémie, c'est qu'il est très pratique. Des fois, on est là tellement dans la théologie mystique qu'on reste dans les hauteurs de la révélation de Dieu, puis on revient pas sur le plancher des vaches. Et du coup, notre prière, elle a été superbement belle, bien dit, des mots choisis, mais finalement, ça ressort rien derrière. Un petit peu à l'image de ce pharisien, vous savez, qui est là dans la maison de Dieu, et il prie de manière incroyable, avec un verbe, avec une intonation. Et il dit, Seigneur, je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je ne suis pas comme ce publicain, tu vois, qui est par terre, là, qui voit rien. Voilà la belle prière qu'il fait. Et puis, il y a un petit homme qui est là, justement le publicain, qui lui confesse son péché, Seigneur. Aie pitié de moi, je suis un pécheur. Une simple prière, mais la Bible nous dit, Jésus nous dit lui-même, que celui qui est reparti exaucé, c'est le dernier, pas le premier. C'est bien de faire de belles phrases. On a le droit, on a quand même d'en faire. Hein. C'est pas un péché. Mais c'est tellement bien quand notre prière, elle est concrète. Elle est rattachée à quelque chose de pratique. Et là, Néhémie termine sa prière en disant « Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » Donc là, il commence vraiment à cibler. Il a commencé par glorifier Dieu, à lui dire combien il était celui qui régnait. Il a commencé à voir cette réalité que Dieu est au-dessus de tout. Il a commencé à voir cette réalité que le peuple d'Israël est là péché. Son propre cœur, c'est un cœur pécheur. Mais finalement, il termine de façon efficace, encore une fois, parce qu'il est concret. Il dit quelque chose de précis. Et j'ai vu souvent des personnes, je me souviens d'une personne dans une église, quand j'étais jeune, hein, donc tout jeune, j'étais ado, je crois, mais j'entendais tout le temps cette prière. Seigneur, sauve tous les hommes de la terre. Seigneur, sauve tous les hommes de la terre. Et moi, ça me gênait. Alors, je sais pas pourquoi ça me gênait. Parce que pourtant, dans la Bible, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On est d'accord. Mais Dieu veut aussi que nos prières soient précises. Et Seigneur, sauve tous les hommes de la terre. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer que notre prière, elle est exaucée? Comment? Il faudrait qu'on ait la, les données de toutes les cœurs de tous les êtres humains sur la terre pour savoir si notre prière elle est en train d'être exaucée ou pas. Comprenez? Il vaut mieux dire, Seigneur, tu vois telle personne dans ma famille, Seigneur, sauve-la cette personne. Et être fidèle et être constant dans la prière par rapport à cette personne. Mais être concret pour une personne. Et c'est comme ça que vous allez voir si la prière est exaucée ou pas. Si vous priez tous les jours, Seigneur, sauve tous les hommes, c'est bien, mais à un moment donné, il faut recentrer pour pouvoir mesurer. Parce que la prière efficace, elle est mesurable. On peut voir si Dieu exauce ou pas. Et la Bible nous dit que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Si Dieu ne nous exauce pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est dans notre cœur? Est-ce que c'est une association avec quelqu'un qui n'est pas droit? Ça peut arriver aussi. Je me souviens dans une église, une petite église, quand on allait là-bas, on avait l'impression de rentrer dans un office de deuil. Vous savez, un moment, commencer solennel, commencer triste. Quand on rentrait là-bas, ben, tout le monde avait des têtes d'enterrement. Et on me disait, allez, il faut se réjouir dans le Seigneur, mais les gens ne se réjouissaient pas du tout. Et puis, en parlant avec quelqu'un qui connaissait la situation, dans cette église, il y avait une personne qui avait fait n'importe quoi dans sa vie. Et ça n'avait jamais été mis au clair. Et ça faisait comme un interdit dans l'église. Et cette église qui avait connu des temps de bénédiction, elle se retrouvait à être une petite vingtaine au culte le dimanche matin. Et les gens, forcément, en voyant ça, alors qu'ils ont connu un passé un peu glorieux, ils étaient tristes. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de rester triste? Est-ce qu'il vaut mieux pas régler les choses si Dieu nous montre un obstacle dans notre vie? Plaise à Dieu que ça soit pas nous l'obstacle, hein. Mais si c'était nous l'obstacle, le Seigneur est celui qui pardonne, qui fait grâce. Simplement, il faut confesser son nom. Et il faut aussi avoir ce zèle qui se manifeste de manière constante. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Jour et nuit. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on vende nos lits à la maison, parce que jour et nuit, on doit prier. C'est ça? Ça tombe bien, au Burkina Faso, ils veulent récupérer plein de matériel, donc on va faire ça, on va ramener tous les lits ici. Vous êtes d'accord? Vous avez raison de ne pas être d'accord. C'est pas ça que ça veut dire. Jour et nuit, ça nous montre quelqu'un qui était continuellement préoccupé par quelque chose. Et laissez-moi vous dire, c'est vrai que c'est un petit peu obscur parce que c'est les mois en hébreu, donc Kisle et l'autre mois de Nisan, ça nous parle pas beaucoup, mais en fait, il s'est passé entre le moment où Néhémie nous rapporte cette prière et puis le moment où il a été exaucé, il s'est passé 4 mois. Vous imaginez 4 mois. C'est pour ça qu'il peut dire jour et nuit, je te prie Seigneur. Parce que cette prière, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'il a fait monter vers Dieu pendant 4 mois. Jour et nuit, il était préoccupé. Alors bien sûr que des fois la nuit, il devait se coucher tôt et il devait bien dormir parce que le lendemain matin, il se levait tôt pour aller servir le roi. Mais chaque fois qu'il avait un moment de libre dans sa journée, dans la nuit, il se réveille, voilà, il pensait, il priait pour cette situation. Jésus nous met en garde contre les vaines répétitions, on est d'accord? Ne multipliez pas de vaines paroles quand vous priez. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est ce que Jésus dit. Mais on comprend bien que cette prière qui se répète jour et nuit, ce n'est pas une vaine répétition. C'est le cœur qui est tellement intéressé à ce que Dieu exauce, qui persévère jusqu'à obtenir l'exaucement. Et des fois, on tombe dans le piège en disant, Seigneur, je veux pas me répéter, donc on se répète pas. Mais au lieu d'avoir ce cœur qui persévère, on est plutôt dans un cœur qui s'endort petit à petit. Et c'est bien, des fois, de répéter une prière. Ça veut pas dire la répéter mécaniquement, mais de mettre à chaque fois notre cœur dans un sujet particulier qui nous touche. Parce que ça, c'est une prière qui est efficace. Et 4 mois après, on verra la semaine prochaine comment Dieu a permis qu'il y ait l'exaucement qui se passe. Mais je voudrais terminer, après avoir donné tous ces aspects de la prière de Néhémie, cette prière efficace qui nous montre à nous comment prier, je voudrais terminer avec cet exemple. L'exemple d'une prière puissante. Il y a même 2 prières qui ont eu un impact particulier pour une jeune fille. Je lisais ce témoignage hier et ça m'a interpellé. Une jeune fille qui a grandi en entendant parler de Dieu, ses parents connaissaient les églises, ils fréquentaient les églises, mais elle n'était pas plus intéressée que ça. Et elle a eu une vie relativement tranquille jusqu'à 15 ans, cette jeune fille. Puis elle est arrivée au lycée, et quelques semaines après la rentrée des classes, rentrée s'est bien passée, mais quelques semaines après, Elle a commencé à avoir une phobie scolaire. Elle se réveille le matin, elle a une boule au ventre, envie de vomir. Elle ne se sent pas bien, elle a l'impression d'être malade. Et c'est pas ce qui lui arrive, c'est la première fois que ça lui fait ça. Et dès l'instant où elle a compris qu'elle ne pourrait pas aller en classe ce jour-là, il y a tout qui disparaît. Mais elle ne comprend pas. Alors, le lendemain matin, elle essaye de se préparer à nouveau pour aller en cours. Et la même chose qui se passe, la boule au ventre, envie de vomir, elle a des malaises et elle se sent tiraillée à l'intérieur. Elle a d'un côté envie d'aller en cours et de l'autre côté, elle a la peur qui la paralyse totalement. Et petit à petit, c'est quelque chose qui s'est empiré dans sa vie. Ses angoisses sont devenues tellement fortes qu'elle ne peut plus même aller au lycée. À 15 ans, vous imaginez? Alors pendant un an, elle fait les cours par correspondance. Mais petit à petit, elle se coupe du monde et ça amplifie encore ses angoisses. Même le fait d'aller dans les magasins, ça devenait un combat. Elle a été obligée d'arrêter les cours de danse, elle était obligée de rester enfermée chez elle. Et à un moment donné, les gens lui posent des questions. « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle dit « Mais je sais pas ». Elle n'arrivait même pas à comprendre ce qui se passait. Mais elle voyait qu'il y avait quand même une différence avec ce qu'elle vivait avant, qu'elle décide d'aller voir un psychologue. Et le psychologue, il lui dit cette bonne parole, plein d'espoir. Maëva, les gens comme vous, si on ne les hospitalise pas, ils finissent seuls chez eux dans le noir et ils ne sortent plus. Et donc, il l'invite à être hospitalisé. Et elle dit, mais je ne suis pas folle, je ne suis pas malade. Et le médecin lui dit, il faudrait que vous alliez en psychiatrie en plus. Et puis, comme elle sait qu'il n'y a rien qui change dans sa vie, elle décide quand même d'accepter de... Elle n'a plus de vie sociale, elle n'a plus de solution par rapport à ce qu'elle vit. Elle décide d'aller dans cette clinique psychiatrique. Et elle reste là-bas pendant 2 ans. La semaine, elle reste là-bas. Le week-end, elle rentre chez ses parents. Il y a une difficulté, vous savez, quand les enfants partent de la maison. Elle était très attachée à ses parents, donc c'était vraiment une déchirure. Mais en même temps, la première année lui fait beaucoup de bien. Et puis, par contre, la deuxième année, c'est la descente aux enfers. Elle devient pire qu'avant. Des angoisses pour toutes sortes de choses. Elle a plus de problèmes pour aller en cours, mais elle a tant d'angoisses qui apparaissent. Peur de dormir, peur d'être malade, peur d'aller manger ailleurs que chez elle, peur de prendre les transports en commun. Chaque événement de la journée devient un combat, devient une épreuve insurmontable. Et à 16 ans, elle dit « J'ai l'impression d'avoir vécu 100 ans, tellement je suis fatiguée moralement. » Et elle était prisonnière de ses angoisses. Puis un soir, elle regarde un film avec des jeunes avec qui elle était. Et là, elle sent une crise d'angoisse énorme qui commence à arriver. Plus impressionnante que ce qu'elle a déjà vécu. Et c'est une petite boule au début sur son estomac, mais qui commence à grossir, à grossir, à grossir. Et si bien qu'elle est obligée de s'allonger, elle cherche à trouver un infirmier, mais ils sont pas disponibles vu l'heure tardive. Enfin, c'est compliqué. Alors pendant ce temps-là, elle appelle sa maman. Elle appelle sa maman qui est chrétienne et sa maman essaye par ses paroles de la rassurer. Il y a des fois elle a réussi, mais là elle n'arrive pas à la rassurer du tout. Elle raccroche, elle se sent mal, elle a envie de partir de cette terre, la sorte d'idée qui lui passe. Et puis tout à un moment donné, sans qu'elle fasse rien du tout, elle sent que cette boule-là, sur son estomac, elle commence à monter, à monter, à monter. C'est pas une vraie boule en plus, hein. Mais il y a quelque chose qui se passe en elle. Et elle sent que ça monte, ça monte, ça monte, et c'est comme si elle a vomissé cette boule. Et à l'instant où ça se passe, elle se sent bien, elle se sent en paix, elle se sent dans la sérénité. Et il y a une petite voix au fond d'elle qui lui dit « Ton papa, il est en train de prier pour toi ». Alors, elle envoie un texto à son papa « Papa, est-ce que tu pries pour moi ?» Et son papa lui dit « Oui ». Et là, elle tombe des nues, elle s'assoit, elle dit « C'est pas possible. Dieu, que je pensais qu'il était tellement lointain, il vient d'exaucer la prière de mon père pour moi. Il y a quelque chose de concret qui s'est manifesté dans ma vie à moi. Dieu, il est en fait beaucoup plus proche que ce que je pensais. » Et alors qu'elle en réalise ça, qu'elle se sent de mieux en mieux dans son corps, dans son cœur aussi, elle se met à genoux et elle commence à prier, faire une simple prière. « Seigneur, je réalise que j'ai besoin de toi. Il n'y a que toi qui peux me délivrer de mes angoisses. Les médecins m'ont dit, il faut que vous appreniez à vivre avec vos angoisses. Mais Seigneur, c'est pas cette vie-là que je veux. Je veux que tu me délivres. » Et elle commence à lire la Bible. Et elle commence à voir que Jésus est mort à la croix pour son péché. Elle commence à se souvenir des choses mauvaises qu'elle a fait. Malgré la maladie, elle a fait quand même du mal. Et elle demande pardon. « Seigneur, pardonne-moi, mais moi je veux que tu me donnes une vie délivrée des angoisses. » Et à partir du moment où elle a fait cette prière, une simple prière. Avec la foi, elle a été totalement libérée de ses angoisses. Et c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a des années en arrière, mais c'est quelque chose de récent. Voilà ce qui se passe quand un papa y prie pour sa fille déjà, quand une jeune fille prie pour son propre cœur. Quelques simples prières. La situation est désespérée, il y a des ruines qui sont là dans la vie, mais une prière fait la différence. Parce que c'est pas la personne qui fait la différence, c'est le Dieu Tout-Puissant du ciel et de la terre, c'est lui qui fait la différence dans nos vies, si nous acceptons de placer notre foi en lui. Et le résultat, c'est qu'elle a pu passer son bac sans aucun problème, elle a pu passer son permis sans qu'il y ait aucune angoisse, ses cauchemars qui la hantaient depuis des années ont totalement disparu, elle a arrêté l'hospitalisation, elle est partie à la fac, elle a commencé à présenter certaines exposés devant 50 personnes, et ça lui posait aucun problème, et même elle a commencé à traverser la France en racontant son témoignage dans plusieurs endroits, dans plusieurs églises, employée du Seigneur, alors qu'avant elle était dans les angoisses, prisonnière, parce qu'elle a simplement prié le Seigneur. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de prier avec simplicité. Ça vaut la peine de regarder l'exemple de Néhémie et de dire « Seigneur, je veux faire pareil. » Il y a des situations. Est-ce que c'est dans ma vie? Est-ce que c'est dans la vie de mes enfants? Est-ce que c'est dans la vie de mes petits-enfants, de mon frère, de ma sœur, des personnes de ma famille? Peu importe. Seigneur, je veux te prier avec compassion. Oui, il y a des ruines autour de moi. Mais Seigneur, je crois que tu es celui qui rebâtit, celui qui m'appelle à rebâtir, celui qui m'appelle à me lever et à faire ce qu'il faut pour ceux qui m'entourent. Va prier le Seigneur quelques instants. Qui ce matin veut dire, Seigneur, moi, je veux me lever. Moi, je veux me lever pour prier. Moi, je veux me lever pour être saisi de compassion et amener la bénédiction là où tu décideras de m'envoyer. Moi, je veux pas être indifférent aux problèmes de mon frère, de ma sœur, aux problèmes de ceux de ma famille, aux problèmes de mes contemporains, aux problèmes de mes collègues de travail. Seigneur, je veux être quelqu'un qui s'agenouille pour prier, faire monter vers toi la prière efficace. Oui, Seigneur, combien nous avons besoin de regarder à toi, de regarder aussi à ta parole, pour prendre exemple, Seigneur, sur Néhémie et sur tant d'autres hommes de Dieu, qui ont fait la différence, qui ont commencé dans leur vie à faire la différence quand ils ont prié, Seigneur. Aide-nous à être de ceux qui prient. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux qui intercèdent. Aide-nous, Seigneur, à être de ceux qui persévèrent, qui sont constants, qui sont continuellement préoccupés par les choses du royaume de Dieu. Seigneur, donne-nous la sagesse de trouver les moments dans nos vies de tous les jours pour te prier. Donne-nous la sagesse pour bien nous occuper de ce sur quoi nous sommes responsables. Mais surtout, Seigneur, donne-nous la sagesse de te mettre en premier dans nos vies, afin, Seigneur, que nos prières soient exaucées. Parce que c'est là ton désir. Oui, Seigneur, peu importe ce qui se passe dans notre société de France aujourd'hui, dans notre monde, sur cette planète Terre qui est en train, Seigneur, d'être détraquée, nous croyons que s'il y a un peuple qui se lève pour prier, alors il y a une bénédiction à la clé derrière, parce que tu es le Dieu de bénédiction. Je te demande ce matin, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont présents. Tu connais, Seigneur, où c'est que chacun en est devant toi. Tu vois ceux qui ne sont pas encore le temple de ton Saint-Esprit. Tu vois ceux qui ne sont pas encore, Seigneur, de ceux qui ont confessé ton nom. Je te demande de toucher leur cœur, de les remplir de ton amour, de leur montrer qu'à la croix, Seigneur, tu as tout payé pour que tu puisses faire de leur vie une habitation de Dieu en esprit. Seigneur, touche les âmes. Merci de nous bénir à nous et de nous montrer, Seigneur, peut-être s'il y a des choses dans nos vies qui sont des obstacles. Mais nous voulons une chose. C'est que ton royaume avance, que notre Église s'édifie, Seigneur, que notre foi soit fortifiée, que l'Église de Moissac, Seigneur, puisse grandir encore, parce que tu as des projets pour chacun de nous, pour cette Église et pour notre ville. Que ton nom soit béni, Seigneur éternel. Amen.